VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Ouagadougou, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par la RDC. Libération de 53 personnes qui étaient accusées d'être des membres de la milice de Kamuina Nsapu, un défunt chef coutumier du Kasaï central opposé au régime du président Joseph Kabila. Des précisions avec Eddy Sango.
43 adultes et 10 enfants qui étaient en détention préventive depuis au moins 2 mois ont été relâchés. En échange, ils ont signé un document dans lequel ils promettent de ne plus s'engager dans un mouvement insurrectionnel. Les 10 mineurs ont été confiés à l'UNICEF à Kananga pour être ensuite admis dans un centre de réinsertion. Depuis septembre 2016, le Kasaï central est le théâtre des violences à répétition. Selon l'ONU, 140 personnes au moins ont été tuées dans des affrontements. La dernière vague de violences a eu lieu vendredi. Les partisans de la milice protestaient contre l'arrivée du Premier ministre Sami Badibanga et demandaient le départ du gouverneur de province Alex Kandé. La visite du Premier ministre a finalement été annulée. Kamuina Nsapu, un médecin âgé d'une trentaine d'années rentré d'Afrique du Sud en avril 2016, avait lancé le mouvement, mais a été tué dans une opération de police après avoir contesté l'autorité du pouvoir central à Kinshasa.
RCA, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'un an l'embargo sur les armes à destination de la Centrafrique. Décision prise le 28 janvier, alors que le pays espérait la levée de cette sanction. La colère s'est emparée des Centrafricains. Écho des réactions à Bangui au micro de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
C'est une chose inacceptable. On ne peut pas être dépendant de cet pays. Nous devons avoir l'initiative d'être autonome. Des reports.
Je crois que ce n'est pas normal, puisque ce n'est pas pour la première fois.
Si maintenant on va de report en report, quand est-ce que RCA aura sa souveraineté en matière de sécurité?
Nous sommes très conscients que c'est nous-mêmes qui dépendons de notre sécurité et nous voulions à ce que les forces armées centrafricaines assurent la sécurité des Centrafricains.
C'était des réactions à Bangui au micro de notre correspondant sur place, Freeman Sipila. En Mauritanie, un journaliste et opposant condamné en juillet 2016 pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre a été libéré hier à la faveur d'une réduction de peine à l'issue de son procès en appel. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Le journaliste Cheikh Bayould Mohamed avait été condamné à 3 ans de prison ferme le 14 juillet 2016 pour outrage et violence contre une autorité publique. L'incident s'est déroulé lors d'un point de presse du ministre Mohamed Lemine Ould Cheikh, porte-parole du gouvernement mauritanien, lorsque le reporter lui avait lancé sa chaussure sans l'atteindre, le qualifiant de ministre du mensonge. Il avait été maîtrisé par des policiers, arrêté et détenu avant d'être inculpé et écroué le 11 juillet. Jugé en appel à Aleg, où il avait été transféré peu après sa condamnation, Cheikh Bayould Mohamed a été condamné à une peine réduite à 1 an de prison, dont 7 mois ferme, et le reste avec sursis. Vu qu'il a déjà purgé la peine de prison ferme, la justice a ordonné sa libération. Sa condamnation avait suscité de vives protestations de son mouvement, dit mouvement du 25 février, né dans le sillage du printemps arabe et opposé au président Mohamed Ould Abdelaziz.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le nord du Burkina Faso, des enseignants affirment avoir reçu des menaces d'hommes armés, leur intimant l'ordre d'enseigner désormais l'arabe et le Coran. Plusieurs enseignants ont fui la zone. Bagassikoura a joint Ilyasa Sawadogo, instituteur à l'école Petega dans le cercle de Nassoubou, qui explique pourquoi il a abandonné son poste.
Il y avait 2 hommes armés à moto qui sont arrivés, disant de fermer l'école. Ou, si on veut rester à l'école, on enseigne l'arabe ou bien on quitte.
Et comment vous avez réagi?
Bon, devant une arme que tu n'as jamais vue, la réaction est claire, on a obéi. Les gars étaient en tenue de nos militaires.
Et c'est les hommes que vous connaissez?
Non, ils étaient cagoulés, donc l'autre était à visage découvert, mais je le connais.
Et en ce moment, vous continuez à enseigner ou est-ce que les écoles sont fermées?
Bon, des gens qui ont dit de ne pas rester. Ils revenaient nous trouver là-bas. Et ça, c'est une prévention. Ils viennent de nous prévenir. Et ils reviennent nous trouver, donc il n'y a plus de mesures, c'est feu. Dans ça, moi, j'ai en tout cas je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un à l'école. Alors, moi, précisément, je ne suis pas à l'école.
Oui, vous n'êtes pas à l'école. Est-ce que c'est la seule école qui a été menacée?
Ce n'est pas la seule école d'après les paroles, mais ce que moi j'ai vécu, que je peux parler dans les autres écoles. En tout cas, j'ai eu les informations qu'il y a d'autres écoles aussi qui ont été menacées.
Donc en ce moment, les écoles sont fermées dans le cercle de Nansumbu.
Je ne suis pas actuellement dans la CEP.
Oui.
Je ne peux pas dire que toutes les écoles sont fermées.
Oui.
Je ne pense pas repartir.
Vous n'êtes pas là-bas à cause de la situation sécuritaire?
Voilà, réellement, parce que j'ai reçu des menaces, donc je ne peux pas. Des gens qui disent que si je passe l'information, là où je pars, ils vont me retrouver, donc je ne peux pas. Même dans la zone, je pense que je ne peux pas, parce que c'est difficile de vivre, de voir ça face à toi, et puis tu vas dire que tu vas repartir.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres confrères qui sont dans votre situation, qui ont aussi abandonné leur poste?
Non, à l'école, je suis avec des collègues. Donc, en tout cas, je pense pas qu'il y a quelqu'un toujours à l'école. En tout cas, on m'a trouvé à l'école, mais les autres étaient... Bon, ils ont eu des informations avec moi, donc personne n'est là-bas, en tout cas.
Et où sont les forces de sécurité, alors, dans la zone?
C'est difficile de répondre à cette question.
Vous ne les voyez pas alors?
En tout cas, si je dis que je les ai vus ce jour, je ne les ai pas vus ce jour. Je vais bouger là-bas sans les voir. En tout cas.
Et qu'est-ce qu'il faudra pour que vous vous retourniez là-bas?
Retourner dans la même école?
Oui, dans la zone pour travailler, puisque vous êtes fonctionnaire.
Oui, exactement, je suis fonctionnaire, mais la vie avant tout. Pour retourner dans la même école, il faut de la sécurité. Maintenant, ils sont venus à l'école. Sinon, dans les villages, ils venaient tirer sur les gens. Il y a des gens un à un dans le village qui disent qu'ils me connaissent. Donc, je ne peux pas dire que je vais repartir là-bas comme ça. Même mes affaires sont là-bas, je ne pense pas aller les ramasser moi-même.
Ilias Sawadogo, enseignant au Burkina Faso. Afrique du Nord, le Parlement tunisien a adopté hier un projet de loi autorisant le vote des forces de sécurité et de l'armée aux élections municipales et régionales. Des scrutins très attendus 6 ans après la révolution. Azouma Compaoré.
Depuis la chute de Zine El Abidine Ben Ali en 2011, les municipalités tunisiennes sont gérées par des simples délégations chargées de liquider les affaires courantes. L'Assemblée des représentants du peuple a donc adopté hier une nouvelle loi autorisant les votes des militaires et forces de sécurité, environ 130 000 personnes, pour les scrutins locaux. La question de leur droit de vote aux législatives et à la présidentielle n'a pas été tranchée. Début janvier, le président du Parlement, Chafik Sarsar, s'était emporté contre le blocage inadmissible. Le parti islamiste Ennahda, première force avec 69 députés, était réticent, clamant que l'armée et les forces de sécurité devaient rester neutres. Maintenant que le verrou a sauté, l'instance électorale estime qu'il lui faut 8 mois à compter de l'adoption de la loi pour organiser des élections locales, probablement à la fin de l'année.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon, la première demi-finale de la CAN, c'est ce soir à 19h, temps universel à Libreville, entre le Burkina Faso et l'Égypte. Le Burkina Faso est pressé d'arriver en finale, a déclaré le défenseur des étalons burkinabé Bakary Koné hier en conférence de presse. Procter Cooper, le sélectionneur argentin de l'Égypte, il faut jouer ce match et ne pas regarder le passé glorieux des pharaons égyptiens. On retrouve sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
L'important pour le Burkina Faso est de s'être qualifié pour la demi-finale, a déclaré le coach Paulo Duarte avant de juger l'adversaire.
L'Égypte, ils défendent bien, ils défendent beaucoup. C'est caractéristique du modèle de jeu de son coach, qui reste 4 pour 2 toujours derrière auquel vont pour l'attaque. L'attaque pratiquement avec 4 joueurs, parfois 5 joueurs. Ça, c'est le style de cette équipe.
En allusion au prestigieux palmarès de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, Paulo Duarte a fait remarquer qu'à chaque match correspond une histoire, une époque et même une équipe différente. Le coach de l'Égypte, Hector Cooper, a lui aussi tenu à souligner que l'histoire est importante, mais pas aussi importante que cela.
Et évidemment, l'Égypte a gagné 7 Coupes d'Afrique, non, aucune doute.
Alors, quand j'ai pris cette équipe d'Égypte, je connaissais bien sûr le passé de l'Égypte. Dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, on ne peut pas se passer de l'histoire. Maintenant, nous sommes beaucoup plus appesantis sur nos ambitions personnelles qui étaient de se préparer pour cette Coupe d'Afrique des Nations et également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Hector Cooper a assuré que son équipe a le talent, l'enthousiasme et la détermination nécessaires.